Bienvenue pour un nouveau podcast de Perdusa à Bordeaux avec Fertis, Thirou et moi-même. Nous allons commencer par évoquer le final de Spartacus, l'occasion sûrement de revenir sur la troisième saison de la série, voire sur la série dans tout son entier. Nous enchaînerons ensuite sur l'indulgence des geeks et de leurs associés par rapport à leur série phare qu'on nommera tout à l'heure avant de faire le point sur les vraies bonnes séries de cette fin de saison. Alors commençons tout de suite par Spartacus qui s'est achevé hier soir ou plutôt vendredi soir.
I am Spartacus. C'était bien. C'était pas aussi bien que l'épisode d'avant, j'ai trouvé.
C'est un peu ce qui se passe de façon générale, où l'avant-dernier épisode d'une série est toujours beaucoup mieux quand c'est réussi que le season série finale. Oui.
C'est vrai, ouais, parce qu'on sait moins ce qui va se passer dans l'avant-dernier. Je quand même trouvais qu'ils avaient réussi à faire un épisode aussi surprenant que possible, vu qu'on savait déjà comment ça allait finir. Il y a beaucoup de fausses pistes, c'est assez. Et la bataille finale a beaucoup de rebondissements qu'on voit pas forcément venir. Oui. Et même sur le sort des différents personnages, c'est plutôt bien fichu. Et c'était très chouette, vraiment. Et c'était hyper impressionnant, surtout. Enfin, la dernière bataille est.
Assez épique, oui.
Voilà, super bien faite. On n'a pas l'impression qu'il manquait du tout de budget.
Non.
Et c'est vraiment très très prenant.
Oui.
Mais cet épisode épique est à l'image de la série. Enfin, ça caractérise le mieux la série, c'est son épisme. Oui. Malgré un visuel qui, au départ, peut être
repoussant.
Assez redoutable.
Mais une fois qu'on s'y fait.
C'est ce qui, au final, fait la force de la série, c'est-à-dire que comme elle n'a pas un visuel réaliste et qu'elle accumule les effets spéciaux par ordinateur, par ce genre de choses, elle n'est pas comme, enfin, bien falloir en parler, comme Game of Thrones, coincée par une espèce de volonté de réalisme qui l'empêche de faire des choses vraiment, vraiment épiques. Oui. Quand on regarde la bataille de Blackwater. On peut pas s'empêcher de se dire que il y a des soucis de budget, on voit pas de grandes armées, on voit 25 personnes sur une plage se tabasser dans le noir. J'imagine que quand on est intéressé par les personnages, on peut ressentir quelque chose durant cet épisode-là de Game of Thrones, mais Spartacus a cet avantage-là de pouvoir mettre à l'écran des batailles de 200 millions de personnes. On sait que c'est du on sait qu'il y a l'intervention de l'ordinateur.
C'est bien fait parce que moi, les 200 millions de personnes qui. Enfin, on ne voit pas du tout. On sait que c'est fait en numérique, mais on ne peut pas dire que quand c'est filmé de loin, ce soit spécialement mal fait. Moi, j'y croyais. Peut-être parce que j'étais dedans.
Non, j'étais en train de repenser à Rome, et c'est vrai que Rome aussi avait un souci de budget par rapport aux batailles, mais ils avaient réussi à.
C'est drôle, alors que Game of Thrones ou Rome, ça doit être deux des séries les plus chères qui ont jamais été faites. Ouais. Ça fait partie de. Pour Spartacus, de ces trouvailles vraiment, vraiment intelligentes qui permettent de.
De compenser.
D'aller au bout de ce qu'ils veulent raconter et de ne pas être gêné par des gros problèmes de budget.
Oui, c'est vrai. Et même, par exemple, quand ils ramènent des personnages, quand Spartacus voit sa femme, que Gannicus voit le doctoré, c'est des images de synthèse, donc ce n'est pas spécialement bien fait ou autre, mais on sent que les scénaristes avaient envie de les ramener, que c'était important pour leur histoire, et du coup, tant pis si visuellement, ce n'est pas tout à fait.
C'est un peu plus L'Oréal, ça c'est un peu plus pour du parfum. Mais néanmoins, malgré tout, c'est vrai, malgré le côté un peu cheap, un peu. Pas esthétiquement très beau, on va dire. Malgré tout, le fait que les personnages soient bien écrits, les situations bien écrites, on oublie ce côté cheap et le côté. Ouais. Moi, j'y ai pensé, je me disais, on dirait un peu une pub L'Oréal, mais je suis touchée quand même que le fait qu'il vous revoie sa femme, le fait qu'il revoie Doctoré, c'était beau, c'était émouvant.
Mais c'est ça arrive toujours au bon moment, visuels arrivent au bon moment, même si c'est un peu cheap, comme ça sert l'histoire, comme on a envie de voir ce qui se passe à l'écran, ça fonctionne.
Oui.
comme les scènes de sexe qu'on retrouve tout au long de la série, qui sont rarement présentes uniquement pour le visuel érotique.
Oui, non.
Même si ça joue énormément.
Oui, mais c'est jamais complètement gratuit. C'est jamais complètement gratuit, quoi. C'est...
Comme le viol de César.
Oh mon Dieu.
Dans cette
saison.
C'était
pas gratuit, non, ça c'est sûr.
Comment vous expliquez ce viol de César?
Moi je l'explique pas, moi personnellement. Non.
Moi je pense qu'il voulait qu'un homme se fasse violer après toutes les femmes qui avaient été violées pendant la série.
Et en plus, un homme qui est quand même représenté comme étant puissant.
Et puis c'est pas une.
Futur César, quoi.
Puis ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans la dynamique de César et du fils de Marcus Crassus, on a toujours l'impression que c'est César qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort physiquement, beaucoup plus courageux aussi.
Oui.
Et du coup. Il y a quand même une tension un peu, quelque chose d'un peu sexuel dans leur dynamique dans les précédents épisodes, puisqu'ils sont toujours à poil quand ils se parlent. Mais on a plutôt l'impression que César domine dans la relation, donc c'est pas inintéressant de voir que finalement, le violeur c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir et qui est finalement plutôt la personne qui est plus faible de la relation entre les deux.
Bon, cette saison 3, vous en avez pensé quoi de façon globale, si on devait l'évaluer par rapport aux deux précédentes saisons et le prequel?
Je crois que c'est celle que je préfère le moins, quand même. Même si j'ai beaucoup aimé la fin, je crois que c'est quand même celle que j'aime le moins.
Pourquoi ça?
C'est une bonne
question.
Non,
ça va pas.
écoute, je sais pas exactement pourquoi, j'avoue. Je me suis un peu détachée des personnages et de leur... et de leur motivation, en fait. De tout le passage avec Crassus qui pense à quitter Spartacus pour mener sa propre rébellion, quand ils sont pas d'accord, là, ça m'a... J'ai décroché à ce moment-là. J'avais pas envie de les voir se battre entre eux.
Moi, je trouvais que c'était plutôt justement réussi, l'une des forces de cette saison, de se rendre compte que... que la difficulté... Malgré la... Oula, ça va être encore... que c'est compliqué d'avoir un but et de s'y tenir et que le quotidien...
De gérer tous ces hommes et de gérer l'afflux d'esclaves qui s'échappent et tout ce que ça entraîne, les questions morales...
Toutes les frustrations que ça entraîne, tout ce discours par rapport à la liberté. Enfin voilà, que la liberté, c'est quand même pas quelque chose qui va de soi et qu'une fois qu'on est libre, la vie est super et c'est tout ce qu'on pouvait espérer, que c'est une lutte de tous les jours. Et moi, ça m'a beaucoup plu, ce déchirement entre les leaders de cette révolte.
Moi, je trouvais que... c'est pas ma préférée. Je pense que c'est celle qui... Peut-être celle que j'aime le moins. Malgré tout, je trouvais qu'elle était très réussie et j'ai trouvé qu'elle était très audacieuse. Des fois, ça marche pas toujours, mais ils ne sont pas contentés de refaire la saison 2 jusqu'à la fin de... jusqu'à la bataille finale. Ils ont vraiment essayé de, effectivement, comme tu dis, de rajouter des réflexions sur la liberté. Ils ont beaucoup contrasté aussi les personnages. C'était assez courageux de montrer les héros comme sous un angle assez négatif pendant une partie de la saison. De temps en temps, ça jouait un peu contre eux parce qu'il y a des personnages qui étaient moins sympathiques qu'on avait finalement, dont on se détachait un petit peu, notamment le personnage de la copine de Crixus, Naivia. Ils ont fait quelque chose que je trouve intéressant. Je trouve que c'est pas à 100% réussi parce qu'ils nous ont un peu, ils ont un peu trop déshumanisé le personnage pendant un moment.
Ouais.
Après, j'étais assez content qu'ils aient vraiment l'ambition pour cette dernière saison d'approfondir un peu, d'aller plus loin dans le discours de la série et pas simplement de continuer sur dans la lignée qu'ils avaient, qui était bonne.
Ils ont eu l'intelligence de mettre un méchant, Crassus, j'ai trouvé vraiment, vraiment bien.
Ouais.
Le duo avec César, les deux personnages, l'acteur qui joue Crassus, je l'ai trouvé vraiment excellent. Ouais. Donc, bon casting, et le personnage en lui-même, est très intéressant. C'est pas le méchant névrosé, hystérique. Des saisons précédentes, et puis le rapport avec son fils, son esclave qu'il aime, c'est une bonne contrepartie à Spartacus, au personnage de Spartacus.
Et d'ailleurs, leur bataille, enfin leur duel dans le dernier épisode extraordinaire. Parce qu'on sait que Spartacus ne peut pas gagner, en même temps, on n'a pas envie non plus de voir Crassus complètement.
Oui, et lui non plus d'ailleurs, on a l'impression que il se bat, enfin le fait de se battre contre Spartacus est le triomphe de sa vie, quoi. Il avait envie de ce moment, il le cherchait, c'était. Et on le sent triste de le voir mourir, enfin triste. Déçu que ce soit lui qui l'ait tué, en fait. Et le fait que Spartacus soit mort des coups portés par des simples soldats, en fait, des gars qui sont là un peu par hasard, c'était très intéressant aussi. Hein.
C'était chouette, et puis en plus ça aide à accepter sa mort, parce que je pense qu'on aurait mal vécu que ce soit Crassus qui le tue. Et d'ailleurs, je trouve que la série, elle arrive souvent à faire des clins d'œil ou des... refléter des choses qui sont passées dans les épisodes d'avant, soit dans des lignes de dialogue, soit dans la mort des personnages, et dans ce dernier épisode, c'est assez bien fichu, parce qu'entre Spartacus, vous avez peut-être vu, mais Crassus essaye de le tuer comme il tue son esclave dans le premier épisode, il s'entraîne à faire un mouvement qui est un mouvement un peu en traître,
et donc
du coup, moi je pensais, ça y est, il va tuer Spartacus comme ça, c'était dans le premier épisode, et donc quand Spartacus arrive à bloquer le mouvement,
avec sa main, là.
C'est un peu la victoire de Spartacus sur Crassus qui s'est cru plus malin pendant tout le moment.
Moi ce que j'ai aimé, c'est quand il parle de Bringer of Rain, du premier épisode, de la première saison, que Spartacus, c'est vrai, on avait oublié son passé de gladiateur et le fait que le peuple l'appelait le Bringer of Rain parce qu'il avait fait pleuvoir après une période de sécheresse. Et le fait qu'il pleuve quand il meurt, c'était très joli, un joli clin d'œil aussi. Ouais,
on peut reconnaître à cette série une vraie, vraie cohérence dans toute sa durée. Moi, je suis impressionné aussi par le fait de la façon dont ils ont géré la mort de l'acteur principal et qu'ils ont créé ces 6 épisodes en attendant la deuxième saison et qui, en fait,
on enrichit la série.
On enrichit vraiment, et de façon complètement naturelle. Et Gannicus est devenu...
un personnage emblématique.
Le deuxième personnage emblématique de la série. C'est une impressionnante maîtrise tout du long.
C'est vrai.
Alors que pour le coup, ils ont dû improviser tout le long, parce qu'à mon avis, ils ne se doutaient pas qu'ils auraient 3 saisons. La série a complètement... Il y a eu beaucoup de changements derrière la caméra, et pourtant, on a l'impression que tout était maîtrisé. Et même le dernier épisode, là, apparemment, c'est un clin d'œil au premier épisode, l'histoire du serpent rouge sur le bouclier. Je l'ai pas vu, faudrait que je le revoie, mais je crois que c'est un truc que la femme... Enfin, c'est pour ça que Spartacus fait un moment d'IA, c'est un mauvais augure, parce que sa femme lui avait parlé, lui avait dit qu'il finirait sous un serpent. Une histoire de serpent rouge qui était un mauvais truc, et qui est pas... Il y a beaucoup de liens avec... Pareil, la mort des personnages, moi je trouve que Gannicus qui est crucifié, alors que c'est lui qui avait vu justement des esclaves crucifiés la saison d'avant, et dont une esclave qu'il aimait assez bien, mais la mort de Gannicus est très très réussie.
Très réussie, oui. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse mourir, en fait. Je pensais que ce serait le successeur de Spartacus, en quelque sorte. Je pense que c'est ce que tout le monde attendait.
Ajouter au fait que, justement, celui n'était pas vraiment convaincu par la cause.
Par la cause, qui était individualiste.
La mort de Spartacus le convaincrait de poursuivre.
Tout à fait. Ils l'ont fait mourir, et c'était une très jolie mort.
Oui, c'était très, très bien.
Une terrible mort, parce qu'avant de mourir, il voit en plus la mort de ses propres yeux de l'Allemande.
Elle meurt.
Et puis il voit aussi Nevia, c'est-à-dire
qui meurt comme sa copine dans le préquel aussi. C'est assez. Comme plein d'esclaves, mais.
Elle ne meurt pas empoisonnée.
Non, dans le préquel, il y a une autre esclave qui s'échappe et qui est exécutée à la fin devant elle et qui meurt exactement de la même façon. Pour ça, je trouve qu'il y a. Je pense que je voudrais que je revoie la série, mais j'ai l'impression que visuellement, c'est très travaillé et qu'il y a beaucoup de renvois qu'on ne voit pas forcément, notamment dans les scènes de bataille, les scènes où. De scènes qui se répètent, en fait. Mais c'est vrai que la mort de Gannicus, c'est sans doute la plus triste, parce que Spartacus, il a une mort qui est plutôt optimiste par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Et du coup, ils n'ont pas non plus voulu faire trop happy end. Il y a d'autres personnes. Gannicus prend un peu pour les autres.
Oui.
Et il y a les gays qui survivent.
Mais bien. Ouais, c'était génial. C'est l'amour qui survit. Ouais. L'amour survit. Non, mais c'est vrai. Ils s'aiment.
Super.
Mais c'est une des...
Enfin, Crixus et Nevia s'aimaient aussi, oui, puis ils sont bien morts quand même.
Oui, d'accord. Mais quand même, l'amour survit. Hein. Ils sont tellement mignons tous les deux. Hein.
Ouais. Et j'espère que le message final porté par Spartacus, c'est pas que l'amour triomphe de tout.
Bah, un peu aussi.
Même de la dictature et de l'esclavage. Hein?
Je suis désolée, mais si. Enfin, il a jamais oublié sa femme. Il s'est toujours battu pour elle. Même si, évidemment, la cause est plus grande que ça, plus grande que l'amour, mine de rien. Le fait de pouvoir aimer qui tu veux...
C'est ça la vraie liberté.
C'est ça la vraie liberté. Mais moi j'ai trouvé ça beau. Hein. Et pourtant, j'aime pas les histoires d'amour à deux balles, mais moi j'ai trouvé que le fait qu'ils survivent tous les deux, c'était chouette.
Bah, c'est beau parce qu'on s'y attend pas en plus. Non. Parce que du coup, quand
j'étais sûre qu'ils allaient mourir, quoi. Bah,
c'est ça. Parce qu'il y en a, départ, on leur propose de partir. On se dit, ils vont partir, ils vont survivre. Partir. Ensuite, quand ils disent non, bah, on va se battre, tu crois que c'est bon, ils vont mourir.
Mais
elle est vraiment bien cette bataille parce que moi je pensais vraiment qu'on allait voir un massacre, en fait, qu'on allait les voir courir au ralenti et qu'ils allaient tous se faire tuer un par un avec une musique dramatique. Et en fait, il y a 10 rebondissements. Léa Ganicus qui arrive par derrière, qui commence à tout. Enfin, c'est vraiment. Ils ont filmé ça comme si on ne savait pas comment ça allait finir et c'est vraiment chouette.
Ouais. Très bonne série.
Oui, en étant plus un peu pervers avec nous, puisque le début de la bataille, quand les esclaves prennent le dessus sur les Romains,
ouais.
C'est comme dans Titanic, quoi. On a presque envie d'y croire. On a envie de croire que le bateau il va éviter l'iceberg et que finalement les esclaves vont gagner. C'est vraiment super, super bien fait. Ouais. Et on comprend toujours ce qui se passe dans les batailles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas, mon Dieu, quoi, tout le monde se tabasse, qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que c'est pas très complexe, mais en tout cas, on n'est jamais perdu.
Oui.
Et la bataille, elle dure combien de temps? Elle dure une demi-heure?
Au moins la moitié. Mais ça, c'est toujours pareil, les épisodes de Spartacus, il y a 20 minutes qui se font de la mise en place. On se dit, ah, c'est bien, c'est un peu mou. Et à un moment, il y a une énorme baston qui commence et qui dure 40 minutes.
Et là, tout le monde se met à hurler. C'est quand même la série où tout le monde hurle tout le temps et saute. Ils aiment bien sauter et hurler en même temps.
Non, mais c'était... Enfin, je pense qu'ils auraient pu avoir 2-3 épisodes de plus cette année pour... J'étais un peu surpris comme ils voulaient arrêter la série, je pense qu'ils pouvaient un peu décider de la durée qui leur restait pour développer 2-3 choses. Il y a des petites choses dans la troisième saison qui auraient mérité soit de ne pas être là, soit d'être un peu plus développées. Mais sur l'ensemble, c'est quand même une série qui est très maîtrisée et vraiment cohérente jusqu'au bout, en fait. Donc,
une série à voir.
Et c'est une série sur laquelle... Enfin, moi, que je trouve très pas émouvante, mais enfin, il y a une charge émotionnelle que je retrouve dans très très peu d'autres séries. Et c'est vrai que même un personnage complètement secondaire dans Spartacus, qu'on a vu 3 minutes par épisode, bah, quand il meurt, on a vraiment on est triste, alors que
j'étais triste quand l'allemande elle meurt.
C'était vraiment triste. Et qu'elle parle en allemand.
Oui.
Et on ressent pas ce qui se produit de plus en plus, c'est-à-dire que quand les scénaristes sont un peu paumés et ne savent plus trop quoi faire de leur série, paf, ils tuent l'un des 3 personnages principaux et c'est censé être quelque chose d'incroyable. Et au final, cette facilité qui est de plus en plus utilisée fait qu'on se détache assez facilement de la mort des personnages. Dans Spartacus, il y a peut-être le fait de savoir que de toute façon, ils sont voués à un sort tragique qui fait que quand quelqu'un meurt, c'est important, il se passe quelque chose... C'est dû au fait aussi que les personnages sont vraiment développés de façon assez chouette et qu'ils ont vraiment des interactions les uns avec les autres vraiment, vraiment chouettes.
Oui.
C'est vrai.
Donc voilà, si vous n'avez pas compris que Spartacus, c'est la série à regarder cette année ou à rattraper cet été, si vous êtes prof d'histoire géo, ça peut être d'autant mieux. Si la seule série que vous aimez, c'est Mad Men. Et il est peut-être temps de passer... ces séries qui pas polluent le paysage audiovisuel, c'est intéressant qu'elles existent, mais en tout cas, il est impressionnant de voir que les réactions qu'elles suscitent semblent un peu démesurées par rapport à leur qualité artistique. On veut parler en gros de Game of Thrones, de Walking Dead, et puis par extension de Community, Doctor Who, Breaking Bad, ces séries qui sont pas si bien, qui sont mauvaises, mais qui ne sont pas toutes du même niveau.
Non.
mais qui ont un public très, très, très indulgent à leur égard.
Oui.
Revenons
très
sur...
vocal, qui parle beaucoup. À vrai dire, on n'entend qu'eux-mêmes.
Mais revenons par exemple sur Walking Dead, qui est quand même une série qui est assez exemplaire de ce point de vue-là. Tout le monde est à peu près d'accord pour reconnaître que c'est à peu près, d'un point de vue de ce qui se fait en série télé, ce qu'il y a de plus mauvais à l'écran, d'un point de vue de gestion de personnages, d'art narratif,
de jeu d'acteurs. Ils sont tous mauvais.
Tout est nul. Enfin, clairement.
Ah oui.
Et quand on lit, c'est même pas juste les fans des séries, c'est même quand même les critiques qu'on peut lire sur de professionnels américains ou ce genre de choses. Il y a une indulgence gigantesque pour cette série. Il y avait... ce qui m'a marqué, par exemple, c'est la... toutes les histoires qui étaient sorties sur le nouveau showrunner de Walking Dead, où, en gros, les journalistes américains expliquaient que c'était une catastrophe. AMC gérait cette série n'importe comment, qui virait les gens à la tête, qui n'auraient pas de cohérence dans la série, qu'ils étaient responsables de tous les défauts de la série.
Ah oui.
Et au vu de ce qui se passe, et en même temps, c'est un peu compliqué pour moi d'en parler, puisque je n'ai pas regardé Walking Dead depuis très longtemps, mais d'après les échos qu'il y a... si AMC a choisi de virer le dernier showrunner, c'est peut-être parce qu'ils ont juste regardé les épisodes.
Oui, c'est ça.
Non, mais en plus, c'est vrai que la chaîne, ça fait deux fois qu'ils virent un showrunner, parce que je pense qu'eux-mêmes, ça se voit en fait que la série, elle est ratée, et que au-delà des effets spéciaux et du fait qu'il y a un concept qui fait que les gens regardent, c'est que des problèmes. La série n'a aucune qualité. Les personnages sont mal écrits, les acteurs sont mauvais. À chaque fois que leurs arcs se finissent pas correctement, des fois ils abandonnent des histoires en cours de route. Je crois qu'on a tous plus ou moins arrêté. Donc,
oui, c'est soyons honnêtes. Ouais. Moi, j'ai pas vu les derniers épisodes. Hein. J'ai arrêté début de cette saison.
Même le début de la troisième saison, que certains ont trouvé génial, et c'est pour ça que. C'est aussi pour ça qu'il y avait des réactions quand le showrunner a été viré, c'est que la première partie de la troisième saison, il y en a qui ont trouvé que vraiment il y avait du mieux, que c'était une grosse hausse montée en puissance de la série. Mais en fait, on avait déjà dit ça pendant la saison 2 à un moment, c'est-à-dire que de temps en temps, ils arrivent à faire un épisode qui est potable, parce que c'est un peu un épisode qui sort du cadre de la série en général, donc c'est pas vraiment inscrit dans les intrigues, c'est vraiment une intrigue qui se boucle en 40 minutes, où il n'y a que trois personnages dedans. Et effectivement, ils arrivent à y mettre plein de zombies, et du coup, le cahier des charges zombies est rempli, et c'est correct. Mais la première moitié n'était pas géniale, et la deuxième moitié, moi j'ai commencé, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi mal écrit. Donc j'ai arrêté, parce qu'il y a un moment, il y a Andrea qui fait un discours, donc Andrea qui est jouée par Laurie Holden, qui était une actrice que j'aimais beaucoup, mais je pense que je ne pourrai plus jamais la voir nulle part à cause de The Walking Dead, parce que...
Merci.
Elle est vraiment, c'est le pire personnage de la série, et elle joue comme une quiche. Elle fait un discours sur qu'est-ce que c'est que l'humanité à des gens, qui est le discours le plus mal écrit de toute l'histoire des séries télé, là encore. Et il y a trois personnes qui commencent, mais il faut le voir, surtout. C'est dans le premier épisode de la reprise. Et du coup, il y avait une espèce de révolte qui se fomentait, où tout le monde allait commencer à se battre, et les gens commencent tous à faire oui, et du coup, elle devient la chef, parce qu'elle a fait un discours en disant dans 50 ans, on se rappellera de nous comme les humains qui ont résisté, point. Et c'est vrai que quand on enchaîne après un épisode de Spartacus et qu'on voit ça, c'est catastrophique. Mais il y a effectivement une indulgence énorme de plein de gens.
Mais moi, je vois que des critiques positives sur Walking Dead. J'ai l'impression de dire que ça, quoi. De dire à quel point c'est génial. Que, oh mon Dieu, ils ont encore tué un personnage, c'est affreux. C'était beaucoup trop d'émotions pour un seul épisode.
Alors moi, j'ai jamais eu la moindre émotion quand ils ont tué un personnage.
Et j'ai vraiment du mal à comprendre, vraiment, parce que...
Moi, je me demande si c'est pas juste le fait que ces séries, de zombies ou de... Je sais pas comment, d'heroic fantasy, il y en a tellement peu qu'au final, les gens seraient juste contents de leur existence. Mais le souci, moi, à mon avis, je suis pas un grand fanatique de ce type de genre. C'est que ça sert pas, justement, ça donne pas une bonne image des séries de zombies ou des séries d'heroic fantasy ou ce genre de choses. Game of Thrones, pour moi, est exemplaire de ça aussi. C'est que, en gros, si on a lu les bouquins, moi j'avais lu les livres, je ne sais plus, jusqu'avant la mort de Ned Stark.
Ouais.
Donc les 8 premiers épisodes de la saison 1 m'ont gonflé parce que je savais tout ce qui allait se passer et qu'en gros c'était une plate illustration pas vraiment très claire de ce que j'avais déjà lu.
Ouais.
Et à partir des épisodes, à partir de l'épisode, à partir des épisodes qui couvraient les choses que j'avais pas lues, j'ai arrêté de comprendre ce qui se passait, c'est-à-dire que c'était incompréhensible. Ouais. Tous les personnages, il y a 200 personnages dans cette série, on passe à peu près 27 secondes avec chacun d'entre eux dans chaque épisode.
C'est ça.
Résultat, on a l'impression que la série fait du surplace en permanence. Ouais. Et qu'il faut juste des épisodes spéciaux, particuliers, où on va se concentrer sur 3 personnages pour avoir la sensation qu'il se passe quelque chose.
Ouais.
Ça ne me donne pas envie qu'il y ait d'autres séries de ce genre qui soient adaptées. Et tout le bruit qui est fait autour de ça, qui nous explique que c'est une série phénomène incroyable, géniale, enfin, m'interroge sur, sur la pertinence de ce que peuvent dire les gens à propos de ce genre de série.
Mais en plus, je pense que Game of Thrones, le problème, c'est que c'est vraiment une série où effectivement, sur le papier, tout le monde disait « Ah, c'est des livres, il faut les adapter en série, c'est fait pour être adapté en série. » Et en fait, je pense que pas tant que ça, parce que les livres, le principe, c'est que chaque personnage est un peu une espèce de caméra qui permet de voir ce qui se passe quelque part. Mais dans une série, l'intéressant, c'est aussi de voir les acteurs interagir entre eux, les scènes qu'ils peuvent avoir en commun. Et dans Game of Thrones, la plupart des personnages sont dans leur histoire. Alors certes, ils ont des personnages secondaires autour d'eux, mais je veux dire, on verra jamais les Stark ensemble, ou peut-être dans les derniers épisodes. Ils sont vraiment chacun de leur côté dans leurs petites intrigues, et finalement, ça fait pas une série.
Non.
Enfin, ils sont obligés de.
Ça fait une suite de vignettes. Une suite de vignettes. Et il n'y a aucune cohésion entre.
Mais ils essayent en plus, mais c'est artificiel.
Et complètement artificiel.
Faire des dialogues qui renvoient vers un personnage. Mais...
Non, ça marche pas du tout. Ouais. Hein. C'est complètement décousu. Ouais. Et je trouve que je trouve la série mal écrite personnellement aussi.
Ouais. Pas tout. Enfin, ça dépend. Mais. Moi, je trouve qu'en général, ils arrivent à écrire à peu près correctement leurs dialogues, ou alors ils reprennent des bons dialogues, mais il y a effectivement des moments où c'est très maladroit, ou très. Ils exposent aussi beaucoup
tout ce qui se passe, hein,
c'est un peu fatigant.
Hein. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça, de plus en plus. Hein, j'ai pas besoin qu'on me décrive les actions qui sont en train d'être montrées à l'écran. Vraiment.
Et ce qui est d'autant plus ce qui est d'autant plus étrange, c'est la réception. C'est-à-dire que, et que ce soit sur Internet ou dans des médias plus traditionnels, il y a quand même deux poids, deux mesures qui sont en ce moment vraiment hallucinantes. C'est-à-dire que Game of Thrones ou Walking Dead peuvent faire des épisodes nullissimes. Globalement, tout le monde trouvera ça super. Oui. Et ce qui s'était passé à la rentrée avec The Neighbors, il y a vraiment un type de série sur lesquelles il est autorisé de taper dessus sans discernement. Par contre, Walking Dead ou Breaking Bad, c'est interdit d'évoquer le fait que, franchement, c'est pas aussi super qu'on pouvait le penser quand les séries ont commencé.
Alors qu'en plus, c'est des séries qui ont moins d'excuses parce qu'elles ont des budgets énorme,
moins d'épisodes à produire,
une grande liberté, moins d'épisodes à faire, donc à un moment on a aussi le droit d'être exigeant et de considérer, enfin, je veux dire, Game of Thrones, après c'est pas forcément évident d'adapter les livres, il reste que ils ont 10 épisodes à faire sur lesquels ils ont déjà toute l'histoire qui a été écrite pour eux, donc c'est pas non plus on est en droit d'exiger que chaque épisode soit ciselé exactement comme il faut, ils
ont tout le budget qu'ils veulent,
surtout que les trucs sont déjà écrits pour eux, donc ils ont même pas à les inventer, il faut juste qu'ils les répartissent dans la saison. Donc mais effectivement il y a une grosse, et puis moi ça me fatigue tous les gens qui regardent pas de série et qui disent que vraiment Game of Thrones c'est la meilleure série de tous les temps, alors que c'est moi j'aime bien, je trouve ça agréable, mais c'est pas un exemple de bonne série Game of Thrones.
Ce sera jamais dans le top 10 de mes séries préférées, hein, ça c'est sûr.
Mais bon.
Perplexes nous sommes, perplexes. On va pas continuer de dire des méchancetés sur des séries juste pour le plaisir de dire des méchancetés, même si c'est un peu la raison d'exister de Perdusa. Mais
bah si, ouais. Il y a quand même une autre série, c'est Community, où là tout le monde s'accorde. Enfin, maintenant, c'est voilà, voilà, ça, impossible c'est de dire que c'est bien, j'imagine, ouais, depuis ouais. que le créateur a été viré. Enfin, il faut. Maintenant, c'est devenu officiellement pas bien. Donc, moi, j'ai arrêté pour le coup, parce que moi, je trouvais ça déjà longtemps. Pourri avant.
Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté aussi. Mais, hein. Mais
j'ai
alors,
presque envie de reprendre.
Mais pendant deux ans, là, j'ai eu l'impression que tout ce que j'entendais aussi, c'est pareil. C'est Community, c'est génial, c'est merveilleux, c'est. Extraordinaire, différent de tout ce qui se peut se faire comme comédie, machin. Et je n'ai jamais compris non plus cet engouement et le fait aussi qu'il y a quand même un épisode sur trois qui est à peu près potable, le reste est nul à chier. Mais tant qu'il y a cet épisode-là, l'épisode du paintball, l'épisode de machin, l'épisode emblématique, tant qu'il y avait ça, et ben les gens continuent à dire que c'est génial et tu ne pouvais pas dire que c'était mauvais, objectivement mauvais. Je suis désolée, une série. Qui arrive, qui a aussi peu de comment, enfin de cohérence dans sa qualité, qui passe de très bon à très 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 mauvais. Je suis désolée, on peut pas dire que c'est une bonne série.
Mais ça, il y a plein de comédies qui sont comme ça et que les gens aiment, enfin qui marchent beaucoup. C'est, enfin pour moi, How I Met Your Mother.
Oui, c'est pareil, c'est vrai, problème. C'est pareil.
J'avais l'impression qu'ils s'étaient mis d'accord pour faire un épisode très bon de temps voilà. en temps.
Et ça suffisait.
Et le reste, ils mettaient toutes les bonnes blagues quelque part.
Voilà. Et ça suffisait à tout le monde, au public, tout le monde était content. Voilà.
Mais quand même, c'est vrai que c'est assez drôle ce revirement avec la quatrième saison où, enfin. Moi, je mets plutôt bien les saisons 2 et 3, même si j'étais... Enfin oui, je me rendais bien compte qu'un épisode sur deux était quand même raté. Un épisode sur deux était raté.
Mais raté, regardable.
Ah,
mais,
oui, c'est ça.
C'est pas raté, sympa, c'est, quoi.
Oui, non, c'est raté, ça fait mal aux oreilles, quoi.
avec une série qui a pas l'air, qui a jamais su identifier ses problèmes et les gérer. Par exemple, Cheng, c'est incompréhensible... que ce personnage soit resté les 4 saisons. À chaque fois qu'il apparaît, il sert strictement jamais à rien, il n'est jamais drôle. Pierce, on a bien compris qu'il y avait un énorme problème avec lui depuis le début de la série. Ils n'ont jamais réussi à le rendre attachant ou quoi que ce soit. Et c'est relativement étrange, effectivement, la perception de la série par les gens qui l'aiment bien, puisqu'il n'y a pas de recul, il n'y a pas de capacité à évaluer les épisodes les uns par rapport aux autres, leur qualité, et la saison 4 n'est pas beaucoup plus mauvaise. C'est-à-dire que, il y a eu 8 épisodes, il y en a 3 qui ont été réussis. C'est à peu près.
La moyenne.
Dans la moyenne.
C'est à peu près dans la moyenne. C'est à peu près dans la moyenne de la saison 3.
Oh là là. Ouais.
Mais peut-être que les gens qui aiment Community sont très jeunes aussi, ils n'ont pas beaucoup de recul.
Je sais pas, moi je vois tout. Fin...
Et par exemple, l'utilisation du méta dans Community qui est censé être ce qui fait sa singularité, c'est quand même de plus en plus appuyé. Enfin, vraiment, une fois, si on ne nous répète pas 50 fois qu'on est comme dans une sitcom et que oh là là, ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on a vu dans Happy Days il y a 20 ans ou ce genre de choses. Alors que, comment ça s'appelle, Cougar Town est vachement plus subtil de ce point de vue-là. Il y a pas mal de références au fait que que les personnages peuvent se rendre compte qu'ils sont dans une sitcom, mais ça arrive de façon suffisante pour pas devenir un gimmick énervant et facile.
Mais ça parasite pas l'intrigue, ça vient toujours renforcer l'humour d'un épisode, mais c'est pas une excuse des scénaristes ou un...
Et c'est ça, je trouve que les scénaristes se sont pas rendus compte des forces et des faiblesses de leur série. Et le méta, c'était pas une force de Community, c'était un plus. Ça pouvait être drôle de temps en temps, en première saison, 3 blagues d'Abed là-dessus, où ils se rendent compte. Mais à un moment donné, c'est perturbant.
Oui.
Ouais. Mais moi, ce qui me désespère, c'est quand il y a des gens que je connais qui regardent très peu de séries et très peu de comédies et qui me disent « Oh, on m'a parlé d'une super sitcom, il paraît que ça s'appelle Community, est-ce qu'il faut que je regarde ?» Parce que c'est pas...
Non, mais pour moi, c'est la même chose.
C'est une comédie à regarder quand on regarde plein d'autres choses, mais c'est pas la première. Si on regarde une sitcom, faut pas que ce soit Community, c'est pas très accessible en plus, c'est pas spécialement drôle, et c'est pas la plus réussie en plus. Non. Donc,
c'est l'occasion de parler de The Middle.
Ah bah oui.
On n'avait pas du tout prévu, mais clairement, clairement, The Middle, ça devrait être la comédie qu'on devrait conseiller comme truc drôle.
Oui, mais c'est pas assez hype. Ça, c'est un couple de un couple de parents et leurs trois gamins ados, ça n'intéresse personne.
Ouais, ça fait fondamentalement pas envie, ça mais simplement, justement, il faut regarder quelques épisodes pour se rendre compte. Enfin, il y a quelque chose qui est impressionnant avec The Middle, hein, c'est la constance de la qualité, oui. C'est-à-dire qu'il y a...
C'est vrai que c'est tout le contraire de Community. C'est très constant, c'est toujours bien.
C'est tout le temps bien, tout le temps bien. Des fois, c'est un petit peu moins bien.
Mais ça
des
reste
fois,
bien.
C'est un tout petit peu mieux. Et quand c'est un tout petit peu mieux, c'est juste la meilleure, le meilleur épisode de comédie de la semaine. Les personnages restent les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas en fonction de ce que les scénaristes ont décidé qui serait drôle dans l'épisode, comme peut l'être un peu Winston dans New Girl, qui a lui c'est pas vrai. Du tout carte personnalité. J'avais essayé de lutter contre ça, mais effectivement, je commence à me rendre compte que lui, il n'existe pas autrement que par les intrigues de... Mais The Middle, c'est juste incroyable, ça c'est... Je pense que je vais me refaire l'intégrale cet été.
Eh ben oui, moi aussi, je pense, du coup. Hein.
Voilà.
Mais alors, sauf que voilà, c'est pas
et
sexy.
Et sous Eck, c'est quand même un peu plus sexy que Abed, quoi.
Ben oui.
Voilà, Iris. ben voilà, en parlant de The Middle, c'est l'occasion de faire le point sur les très bonnes séries du moment. Il y a Mad Men qui a recommencé la semaine dernière. Est-ce qu'on commence par discuter des deux premiers épisodes?
Oui.
Mais j'ai trouvé que la deuxième moitié était beaucoup plus réussie que la première. Toute la partie à Hawaï, là, je trouvais ça étrange, ce montage-là du mec qui est en train de mourir au début et...
J'ai pas compris non plus. J'attends la suite, je pense que ça va être toute la saison.
Ouais,
mais
tu crois? Ça m'a laissé perplexe.
Bah, je pense que Don va mourir pas là, cette saison, mais la suivante.
Bientôt.
Je sais pas. Moi, c'est quand un personnage secondaire qu'on connaît pas meurt dans l'ouverture d'une saison, en tout cas, la mort a l'air très présente, mais j'ai pas compris non plus. Hein. Mais comme souvent dans Mad Men.
Mais la deuxième moitié, j'ai trouvé plus réussie que la première.
Ouais.
Mais c'était très bon. Enfin, moi, j'ai adoré voir Peggy bosser dans son bureau, donner des ordres à ses... elle a tellement évolué. Hein, et puis, c'est naturel. Enfin, on sent qu'elle est dans son élément, là, maintenant. Ça y est, elle s'est trouvée. Elle sait qui elle est.
Et puis, moi, j'avais qu'une peur. C'était qu'on voit Peggy qui regrette vraiment de d'être peut-être partie. Hein. Et d'un lui manque, elle revient tout de suite. Et pas du tout.
Pas du tout.
Et c'était très, très fort. Et j'étais content que Betty... Et une vraie intrigue, parce que l'année dernière, elle était un peu...
Ben oui, elle n'a pas eu de chance. Hein.
Et c'est juste le meilleur personnage de la série, donc c'était bien qu'elle soit un peu remise en avant.
Oui, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'actrice, en fait, qui n'est pas le personnage. Je pense que l'actrice a du mal à...
Je suis pas d'accord, elle est super dans ce rôle-là.
Oui.
Je veux bien que dans X-Men, je ne sais pas quoi, elle n'était pas exceptionnelle.
Tu veux dire qu'elle était nulle à juger.
En même temps, je sais pas s'il faut des bons acteurs pour jouer des femmes de glace ou je sais pas quoi.
N'importe quoi.
Non, là,
Emma Frost.
Je sais même pas qui c'est. Mais January Jones a jamais été nulle dans le rôle de Betty.
Non, elle est très très.
Moi j'aime beaucoup le personnage de Betty. J'ai un peu de mal avec le jeu de l'actrice qui est quand même extrêmement stoïque tout le temps.
Mais c'est son personnage.
Oui, et oui et non. Elle a quand même du mal à faire passer des émotions. Alors peut-être qu'elle n'en a pas d'émotions. Mais c'est un peu lassant, quoi, au bout d'un moment, c'est tout. Hein. Mais j'aime beaucoup son personnage. Hein. J'ai adoré la saison dernière, là, quand elle essaie de perdre du poids. Hein. J'ai trouvé ça courageux. Enfin, courageux, oui et non. Mais de lui faire se rendre compte de sa position de potiche toute sa vie. Elle a été... jolie hein, et mince hein, et d'un seul coup elle l'est plus et elle se rend compte que ça peut pas être sa vie quoi, sa vie peut pas tourner autour de uniquement sa beauté donc et ça a été, je pense que c'est dur pour elle hein.
mais c'est ça qui est vachement joli avec ce personnage là, c'est qu'on passe trois saisons où en gros elle va pas bien, elle est affreuse, elle sait pas pourquoi elle va pas bien et que les prothèses de maquillage de l'année dernière, qui n'étaient peut-être pas les plus réussies du monde, en tout cas, comme dans Spartacus, avaient vraiment un intérêt. C'est-à-dire qu'effectivement, ce personnage évolue, comprend les soucis. Dans ce season premiere, on sent qu'elle a envie d'agir par rapport à ça. Et peut-être avant d'agir sur elle-même, elle veut aider les autres.
Alors qu'elle pourrait aider sa fille. Moi, j'ai trouvé ça génial qu'elle accorde plus d'attention à l'amie de sa fille, hein, qu'à sa propre fille, qui quand même la déteste, hein, globalement. C'est devenu une adolescente. Enfin, elle l'appelle même plus maman, elle l'appelle Betty, donc c'est le début de la fin, quoi. Et Betty se désintéresse complètement de sa fille. Elle s'est jamais vraiment intéressée. Et elle se prend d'affection pour l'amie de sa fille. Je sais pas exactement pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle a du talent et elle pense qu'elle peut faire quelque chose de sa vie comme elle à l'époque, je sais pas. Et j'ai trouvé ça génial, ouais, qu'elle s'intéresse pas à ce qu'elle peut faire pour sa fille, hein, mais plutôt à la vie de sa fille.
c'est ça que j'aime dans le personnage, effectivement, c'est que c'est un personnage. On a envie de la voir aller mieux, on avait envie que quand elle quitte Don, vraiment, ce soit le début de l'émancipation. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est ça qui est vraiment fort dans ce personnage, c'est qu'en fait, elle évolue pas comme on a envie qu'elle évolue, mais elle reste intéressante. Oui. Et là, même, oui, effectivement, avec l'ami de sa fille, il y a quelque chose d'assez profond dans cette relation qu'elle noue avec la mauvaise personne, même si avec sa fille je trouve qu'elle a des relations un petit peu plus apaisées que dans les saisons précédentes, mais c'est vrai qu'elles sont chacune dans leur coin.
Je pense qu'elles se sont éloignées, ouais. Ça va être très dur qu'elles se rapprochent à présent,
et j'espère qu'ils vont pouvoir. Le problème de Betty, c'est qu'effectivement c'est qu'un personnage qu'ils ont dû mettre de côté, parce que comme elle a quitté Don, elle est plus du tout, elle était déjà un peu à côté dans la série, mais là elle a même plus de raison d'interagir avec les autres personnages. Je suis content qu'ils l'aient gardé, mais j'espère qu'ils vont réussir à soutenir ces intrigues tout le long de la saison. Ouais. Parce que l'année dernière, c'était un peu léger à ce niveau-là.
J'ai bien aimé Roger. Avec son psy. Hein.
Son psy. Ouais. Et moi, ce que j'aime dans Mad Men, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais c'est qu'en final, c'est pas ça m'a ouvert les yeux. C'est pas une série si subtile que ça. Moi, j'aime bien qu'on m'explique. C'est pas que j'aime que les choses soient trop écrites avec un gros stylo et soulignées 50 fois. Mais en gros, Mad Men est une série qui laisse pas beaucoup de place à l'interprétation. On nous explique vraiment ce qui se passe. Les épisodes sont thématiques, souvent. Les intrigues se répondent par rapport à un thème. Le thème, il est soit dans le titre, soit il est martelé 3-4 fois, histoire que les choses soient bien claires. Et j'aime bien quand même que les scénaristes sachent où ils vont, qu'ils aient les choses à dire, qu'ils les disent et qu'ils les disent de façon claire, et pas de se laisser à la libre interprétation de tout le monde, où en gros, on sent bien que la maîtrise n'est pas franchement là. Et je trouve qu'avec Mad Men, cet équilibre entre le subtil et le martelé est vraiment toujours aussi réussi, même en saison 6. Ça va s'arrêter dans 2 saisons, c'est ça, normalement, ou on ne sait pas, on n'a pas de date officielle, ou c'est Matt Weiner qui avait dit qu'il aimerait bien qu'il y ait 7 saisons, mais
il voulait arrêter en 1900.
C'est-à-dire qu'à un moment, s'ils arrivent en 2012, ça va commencer à
jouer. Non, je crois qu'il voulait faire juste une décennie, il voulait faire raconter une décennie.
Enfin, en tout cas, je reste impressionné. Enfin, c'est l'une des meilleures séries à l'heure actuelle diffusé à la télévision.
Et il y a quelque chose, enfin moi je sais que normalement j'ai du mal à me remettre dans une série quand ça a été absent pendant un an, et Mad Men, et pourtant c'est quand même lent, enfin le premier épisode il se passe pas grand chose, c'est vraiment de la remise en place, mais au bout de 10 minutes, même dans des scènes très longues, avec peu de dialogue, ouais, c'est long. Il y a quelque chose qui se passe, on est dedans,
ça c'est... Pour revenir à Spartacus, c'est toujours plus difficile de se remettre dans une saison, de se réhabituer au visuel, de se réhabituer à la langue, de se réhabituer aux épisodes d'exposition de début de saison. C'est toujours un peu compliqué d'entrer dans une saison de Spartacus, même si j'avais trouvé que la troisième, c'était un peu plus simple. Et là, Mad Men, c'est ça, au bout de 5 minutes, on est dans Mad Men.
Ouais.
Le niveau qualitatif est le même, on ne se pose même pas la question de savoir si ça va être bien ou pas, puisque on est juste dans Mad Men, on est juste content... De voir ces personnages évoluer tel qu'on l'avait pas prévu. Donc Mad Men, on a fait le tour.
Ouais.
Qu'est-ce qui nous reste de Good Wife? Est-ce qu'on dit à quel point c'est formidable et que pour la première fois, ça va être en haut du top des séries devant Mad Men qui ne sera pas terminé. Donc on a espoir qu'on ne mette pas A+ à la saison juste en utilisant un certain principe de précaution. Vous pensez que The Good Wife peut être numéro 1 du top comme l'a été précédemment de grandes séries comme Vampire Diaries ou Teen Wolf? Non, Teen Wolf, ça n'a jamais été numéro 1.
Non plus, on n'a jamais eu Vampire
Diaries. Vampire ça n'a jamais été numéro 1.
Non.
Que numéro 3.
Ouais.
Ah mince.
C'est dans le top 5, mais jamais. Non, encore une fois.
Oui, bah, cette année, ça risque pas Vampire Diaries.
Non, ça c'est sûr.
Je pense que The Good Wife a ses chances, oui, parce que déjà, c'est une série que presque tout le monde regarde, au sein de la rédaction, ce qu'il joue.
Iris ne regarde pas, donc on a une chance. Finis ça pour rire, Iris.
Oui.
Elle pourra pas voter. Et en plus, tout le monde a l'air d'accord pour dire que cette saison, qui pourtant commençait un peu plus. Enfin, c'est pas qu'elle commençait mal, c'est qu'il y avait une intrigue qui faisait rire tout le monde et qui agaçait tout le monde,
oui.
Qui était celle de Kalinda. Là, il faut reconnaître aussi la. Enfin, je trouve que c'est courageux de la part des scénaristes d'identifier tout de suite le problème dans leur intrigue.
Tout de suite.
Enfin, tout de suite. Bah, non,
ils ont mis genre 4 épisodes, quoi, sans rendre compte.
Non, mais tout de suite, dès que les gens commencent à réagir, parce qu'apparemment, eux, ils étaient surpris qu'on trouve pas ça hyper érotique, les scènes où ils se balancent des
bisous
à la figure.
Oh mon Dieu.
Où ils mettent des doigts dans la mousse
et tout. Dans la glace, c'était ridicule.
Soit, mais dès qu'ils se sont rendus compte que les gens trouvaient ça nul à chier. Eh ben, ils n'ont pas essayé de maintenir le truc, de dire on continue, ils ont complètement abandonné, ce qui pour le coup était la seule chose à faire, je pense, avec ça.
Enfin, je pense quand même pas que c'est juste à cause de 3 personnes qui ont écrit sur Internet en disant que c'était pas terrible.
Non, mais je pense qu'ils ont vu que ça fonctionnait pas à l'écran aussi.
Que ça plaisait pas et que ça. Je pense qu'eux ont été déçus aussi.
Mais ils savent pas quoi en faire de Kalinda, ils savent pas quoi faire de ce personnage.
Bah depuis
le début. Hein.
Depuis quelques épisodes, ils ont retrouvé quoi en faire. C'est-à-dire qu'elle est au
bureau. Elle est détective, voilà. Elle fait son boulot, c'est tout ce qu'on lui demande. Hein.
Bah ouais, mais c'est, il fallait pas qu'ils veuillent en faire plus.
Mais je suis d'accord, mais depuis le début, ils essayent d'en faire quelque chose et ça marche pas. Son histoire avec Camille.
Bah si, le fait, sa relation d'amitié avec Alicia qui était biaisée par le fait qu'elle avait couché avec. Avec son mari, ça c'était plutôt bien vu. Oui. Le fait de l'avoir étalé sur 2 saisons. J'avais trouvé que Kalinda, il l'avait plutôt pas mal développé. Après, Kalinda en tant que personnage indépendant. Là, effectivement, ça fonctionne pas.
Mais parce qu'en fait, Kalinda, c'est un bon personnage secondaire dans ses interactions. Moi, j'aime bien ses interactions avec Carrie aussi, mais c'est vrai qu'elle est là pour. Elle fait de la figuration, elle est là pour soutenir les autres personnages. Mais tant que les scénaristes respectent ça, ça va bien. Après, c'est un personnage qui est un peu trop cool, entre guillemets, pour pouvoir être un personnage principal, parce qu'elle n'a pas vraiment de. Enfin, elle a
un bon personnage principal de Community, par exemple.
Ouais. pourrait faire. Mais non, mais cette saison est quand même très, très. Enfin, chaque épisode est une petite perle, donc.
Oui.
Oui, on ne pourra pas dire grand-chose de plus, se répéter. Les intrigues judiciaires sont exceptionnelles, se renouvellent à chaque fois.
J'ai un peu plus de mal avec la campagne de Peter. C'est plaisant, mais ce n'est pas ce que je préfère. Oui. Mais depuis deux ans déjà, ce n'est pas ce qui me passionne. Et Eli Gold, qui est un personnage que tout le monde adore,
moi, il est un peu caricatural. Ouais.
J'étais un peu déçu qu'ils virent le petit nouveau là, de Grey's Anatomy, que je trouvais un peu intéressant d'avoir du sang neuf dans cette intrigue plutôt que Eli Gold qui fait toujours la même chose et
qui
est là encore un bon personnage secondaire, mais seul dans son intrigue avec Peter, il me fatigue un petit peu.
Bah, l'espoir, ce qu'on peut avoir, c'est que l'autre il soit élu gouverneur. Mais attendez, j'ai pas compris, on en est à. C'est les primaires démocrates. Non, il a gagné les primaires démocrates, il va y avoir l'élection pour gouverneur bientôt.
Bah ouais,
s'il est élu gouverneur, il n'y a plus besoin qu'il y ait d'histoire avec lui. Carrie s'en va et crée sa petite boîte
avec Kalinda
ou la blonde.
Ouais, une des deux.
Et puis comme ça, on peut les avoir en parallèle et Carrie remplacerait, ça serait pas mal.
Ouais, et qu'il les fasse couler. Hein. Et qu'elle perde son boulot, Alicia.
Mais tu as l'air d'en vouloir énormément à Alicia.
Tu lui en veux énormément.
Mais ça va pas, non? Alicia, elle, au moins, Elle a toujours, enfin, elle reste comme elle a toujours été. Ben oui, mais elle a toujours été présentée comme ça. Son boulot, elle l'a eu par ses relations. Ouais. Elle a réussi à grimper les échelons parce que c'est une femme d'eux. Et en couchant, ben voilà, elle s'est jamais été. Oui, en plus, elle a, enfin, ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, elle n'est pas complètement incompétente. Donc c'est plutôt assez agréable à regarder. Mais Alicia a jamais été le modèle de la femme indépendante.
C'est pas Diane plus jeune.
Non, de toute évidence.
La meilleure série du monde que personne ne regarde.
Sauceland.
Ouais. Fertis, parle-nous-en.
Ah, puisque... Sauceland. Mais voilà, mais je sais pas pourquoi personne ne regarde. Si...
Sauceland, peut-être qu'il faut qu'on la présente un petit peu parce que.
Et ben...
Même chez nous, on n'a pas fait beaucoup d'articles dessus. C'est vraiment la série qui avait été lancée à la suite d'Urgence sur NBC, qui a fait, comme toutes les séries de NBC...
un flop monumental.
Une catastrophe du point de vue des audiences. Elle a été récupérée par TNT.
TNT, ouais.
Et puis qui lui a accordé plusieurs saisons d'une dizaine d'épisodes depuis maintenant deux ou trois ans. Il reste plus qu'un épisode de la saison 5, sent le roussi, puisque je crois qu'en saison 3 ou 4, il y avait quand même des critiques qui lui permettaient de survivre. Mais là, j'ai vraiment l'impression que cette saison,
personne n'en parle.
Et plus c'est personne.
Triste. Alors, c'est vraiment triste, hein. Franchement, c'est une des meilleures séries à l'antenne à l'heure actuelle.
Et je pense que c'est une série très difficile, qu'il est très difficile de dire quelque chose de neuf sur chaque épisode, puisque comme c'est une chronique, fondamentalement, il ne se passe jamais rien d'exceptionnel.
Sauf qu'il y a énormément d'action dans chaque épisode, énormément de tension, c'est dur de dire...
Mais ah là là, c'est incroyable, ils ont encore arrêté le mari d'une prostituée, quoi. Et pourtant, à chaque fois, il se passe... Et c'est un peu comme Mad Men, c'est-à-dire que c'est pas complètement super subtil, hein. On comprend bien, en saison 4, le rapport de Lydia avec sa grossesse, ses interrogations sur créer un enfant dans un monde catastrophique, c'était pas complètement subtil, mais c'était très hyper intéressant.
Très très bien écrit, très bien joué, extrêmement bien réalisé, j'insiste, hein, c'est une des plus belles séries au niveau de la photo, au niveau de la réalisation, hein. Je veux dire, j'arrête de taper sur Game of Thrones, ça reste très classique comme mise en scène, c'est très plat, c'est très mou. Sauceland, c'est tout le contraire. Ils n'ont pas les moyens, mais ils arrivent à faire des scènes de poursuite.
En voiture,
ouais. En voiture, sont géniales.
De poursuite à pied.
À pied, de poursuite à pied. Enfin, toutes les scènes d'action sont extraordinaires. Hein. Et les acteurs sont géniaux. Ben McKenzie devrait avoir un Emmy, hein. Mais bon, il sera jamais nominé. cette saison où donc son personnage, on apprend à le connaître en fait, il arrive au début de la série, hein. C'est un jeune bleu. Voilà. Et là maintenant, c'est un policier qui a l'expérience et il est vraiment passé du côté obscur de la force, hein, on peut le dire, la force policière. Et son évolution est fascinante. Et là aussi, c'est subtil sans être trop subtil non plus, hein, parce qu'on l'a vu venir depuis plusieurs épisodes, la façon dont il traite les femmes autour de lui, la façon dont il traite son partenaire, ce qu'il est prêt à faire pour sauver sa peau, sa carrière.
Le fait est qu'il est dans un système aussi qui prône ce genre de comportement. Et, de cow-boy, mais que, effectivement, c'est difficile aussi d'en vouloir aux flics d'adopter des comportements grégaires, puisqu'ils sont en milieu hostile en permanence. Et donc, forcément, se crée des liens très forts entre eux de protection. Oui. Mais qui les font pour certains dépasser les limites de l'éthique. Oui. Et c'est vraiment, vraiment très, très.
Mais ça reste.
Très, très bien mis en scène.
Ça reste une série humaniste. Alors c'est vrai que la population de Los Angeles n'est pas présentée comme sous son meilleur jour, on va dire.
C'est pas vraiment Los Angeles.
Mais néanmoins, ça reste une série comme Urgence, une série extrêmement humaniste et qui a une vision du métier de policier, une vision très noble, je trouve. Il y a une noblesse dans ce métier de proximité, j'aime pas ce mot, mais le fait qu'il soit au contact de la population, au contact des gens qui vont mal, des gens, que ce soit les dealers de drogue, que ce soit les SDF, les putes, ils vont au contact des gens, ils sont là.
Et que dans ces quartiers terribles, avec les putes, les dealers de drogue, les gangsters, les gangs, il y a aussi des gens qui essayent de vivre normalement leur petite vie sans qu'il y ait de connotation péjorative ou quoi que ce soit, qui essayent de vivre leur vie. Et tout le tragique de ces situations dans des quartiers aussi difficiles, effectivement... Mais c'est l'une des rares séries qui met ce type de personnage en scène.
Oui, tout à fait.
Depuis la fin d'Urgence.
Et sans misérabilisme, c'est jamais « Oh mon Dieu, oh, c'est trop dur, encore un enfant qui est mort à cause de trafic de drogue ». C'est jamais comme ça, c'est toujours...
Et c'est pas un documentaire non plus. C'est vraiment une bonne série.
Mais
voilà, je pense qu'on a répété 14 fois.
c'est très émouvant, c'est une série très émouvante. Alors oui, il faut aimer...
Et super accessible. Oui. C'est pas The Wire non plus.
C'est pas The Shield non plus. Hein. C'est pas, ils sont pas dans la violence, dans comment attraper le gros méchant de la saison. C'est pas ça. Hein. Ils sont pas là pour mettre en tôle les gros trafiquants de drogue. Hein. Ils sont vraiment là pour faire du... au jour le jour, hein, pour s'assurer que ce ne soit pas complètement l'anarchie dans les rues.
Et ce rapport au temps est vraiment, vraiment bien. Enfin, on sent qu'il y a une vraie interpénétration du privé et du public. Oui. Le divorce et les problèmes de garde du partenaire de Ben McKenzie sont vachement chouettes, puisqu'on sent que dans un métier où il faut avoir la tête froide en permanence, quand on a eu une nouvelle pourrie le matin, quand son divorce continue à mal se passer ou ce genre de choses, on voit que ça va avoir une influence sur la façon dont va se passer la journée, qu'ils ne vont pas réagir de la même façon à une situation. C'est une série qui touche, qui dit des choses vachement, qui montre des choses vachement justes sur le quotidien,
vie, hein.
Sur ce que c'est faire un métier au quotidien, chose que, on voit très très rarement à la télévision.
Oui, il faut regarder Southland, c'est génial.
Voilà, en gros, toutes les séries commencent par un S. Quoi. Spartacus, Southland, Shameless, Scandale.
Ah bah oui,
hein?
Shameless, moi j'ai bien aimé cette saison.
Ouais. si, clairement c'est une chouette série. Après, c'est sympa quoi. Ça va pas, ça casse pas quand même.
Non, ça casse pas
trois pattes à un canard. Il y a quand même une vision complètement idéalisée de la pauvreté aux États-Unis.
Oui.
Le truc, c'est quand même sympa d'être pauvre.
Oui, parce qu'ils sont solidaires.
C'est sympa et drôle et solidaire.
Ils sont solidaires les uns des autres.
En gros, c'est sympa d'être pauvre,
c'est
quand t'es hyper intelligent et hyper beau.
C'est ça.
Parce que Fiona, elle est super, elle est super futée, super belle. Ils mangent quand même de façon super équilibrée pour avoir des corps quasi parfaits pour des gens qui doivent manger que de la processed food du matin au soir.
Mais oui, moi je continue à bien aimer, oui.
Moi je trouve que c'est une série qui est un tout petit peu surestimée, alors que.
C'est surestimé parce que voilà, c'est un peu. Ils vont dans le trash, ils vont loin dans le trash, et du coup ça choque les gens, et voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Il ne faut pas chercher plus loin.
Comme Scandale. Scandale, Tigrou va dire des choses affreuses. Va dire des choses affreuses. Voilà.
Dans le genre série surestimée, je pense que Scandale.
Où est-ce que tu as lu des choses dithyrambiques sur Scandale, par exemple?
Je sais pas, sur.
Sur Perdu ça.
dans des chroniques sur Perdu ça. Non, mais Scandale est un divertissement sympathique.
Oh, ça suffit.
Ça se regarde.
C'est la meilleure série du monde.
Effectivement, comme ça va à 100 à l'heure, il n'y a pas besoin ni d'avoir des personnages bien écrits, ni des intrigues qui ont beaucoup de sens, parce que de toute façon, tous les 3 minutes, il y a un nouveau rebondissement.
Toutes les 3 minutes, il y a quelqu'un qui parle très vite, avec beaucoup d'intensité.
À deux doigts de pleurer.
À deux doigts de pleurer.
En mélangeant la liberté, la mort, le terrorisme.
Oui, et c'est le président des États-Unis. The leader of the free world.
Bon, ça suffit.
Non, pardon. Non, mais, non, mais moi, j'aime bien, mais oui, je suis d'accord avec Tico, c'est un petit peu surestimé.
Ça se regarde très bien, et je pense que... Mais pour moi, c'est Grey's Anatomy à la Maison-Blanche. Enfin, c'est le même style de série.
Ils n'ont pas tous encore couché les uns avec les autres. Ça va venir, mais en tout cas, pour l'instant, oui. C'est...
Ça se regarde pour les mêmes raisons. Oui. C'est la même différence pour moi entre Scandale et une série de complot ou une série comme ça qu'entre Grey's Anatomy et Urgence. C'est pas la même ambition.
Oui.
C'est plutôt assumé et l'exécution est bien fichue. Après, voilà, moi j'avoue que quand Olivia Pope se met à pleurer pour la 5e fois de l'épisode parce que elle s'est plantée ou qu'elle a eu une mauvaise nouvelle, c'est un soap, c'est tout. Enfin, c'est comme Revenge l'année dernière.
C'est sympathique,
ça se regarde bien.
C'est une très bonne série populaire. Et de divertissement.
Ouais. Ah oui, mais ça, je suis d'accord.
Mais c'est devenu de plus en plus rare. C'est peut-être pour ça qu'avec Drum, on est un petit peu excessif dans les compliments, un peu comme. Allez, le chat, t'es calme. Voilà.
Mais elle voulait participer.
Non. Ouais, ouais. Pile sur Scandale, elle voulait. Ouais, ça n'a pas du tout.
Non, mais moi je suis contente. Alors, déjà, je suis contente que ce soit un personnage féminin qui soit.
Un personnage fort qui pleure toutes les
deux. Bon, d'accord, mais elle pleure tout le temps, elle est réfléchie,
elle ne se définit pas uniquement par sa relation amoureuse, non, ce n'est pas vrai.
Du tout, jamais. Non, mais bon, le fait est que c'est une femme qui est à l'affiche d'une série, c'est pas si souvent que ça arrive. Et en plus, elle est noire, et ça arrive encore moins souvent, donc bon.
Ouais, mais dans Deception.
Oh putain, c'était nul ça, Deception. Hein.
Ce qui était particulier, c'est qu'il y avait donc Deception, j'imagine qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est. C'était une série qui a été lancée au mois de janvier, je crois, sur NBC, où c'est un soap avec une intrigue criminelle où c'est la grande famille blanche, hyper bourgeoise, hyper riche, et puis il y a la fille, il y a une des enfants qui meurt. Et donc là, c'est l'intrigue. Et alors, pour résoudre cette intrigue, pour enquêter, arrive
la fille de la bonne, qui est devenue flic
et qui est donc sous couverture revient dans la famille au moment de la mort de sa meilleure copine. Et alors elle est noire, mais ça n'est jamais évoqué, c'est-à-dire que ça n'a jamais posé aucun souci le fait que ce soit la fille de la domestique. Il y a aucune question autour du rapport de classe, aucune question autour des rapports de race aux États-Unis,
Dans Scandale non plus, cela dit. Parce que le fait qu'un président, enfin je sais pas, moi j'en suis pas aussi à jour que vous, mais le fait qu'un président républicain qui arrête pas de parler d'immigration, enfin cela dit, les Noirs aux États-Unis c'est pas une question d'immigration, mais ce qui a priori est censé ne pas être, c'est pas Obama ce président.
Oui.
Qui trompe sa femme avec une autre femme qui est noire, ce n'est jamais évoqué à aucun moment.
Chief of staff républicain qui adopte un bébé, c'est complètement naturel aux États-Unis pour des républicains de faire ce genre de choses.
Tous les républicains pourraient faire ça. Je veux dire, n'importe quel républicain à la Maison Blanche pourrait avoir un chief of staff gay marié
avec un bébé qui adopte un gamin. Tout à fait.
C'est... Voyons.
Oui, mais on n'a jamais dit que Scandale c'était réaliste. Ça te positionne pas comme ça. C'est une fantaisie.
Oui.
Ouais. Bien sûr. Mais c'est une fantaisie bien. Moi, c'est. Mais pour moi, ça me fait penser en fait à un peu à Vampire Diaries dans la première saison. Enfin, c'est comme ça va à 100 à l'heure, c'est très bien. Ensuite, moi, je n'ai aucune affection pour les personnages. Le couple phare de la série, du président et de l'héroïne, j'y crois. Ils ont une alchimie à l'écran, mais franchement, je m'en fous. Oui. Enfin, c'est bien parce que ça fait avancer l'intrigue, mais il n'y a pas d'intérêt. Les scènes de sexe entre eux sont quand même souvent un peu ridicules, à essayer d'être super chaudes.
Hyper passionnées tout le temps, tu vois, tu sens que ça va exploser.
Mais voilà, enfin, je regarde avec beaucoup de plaisir, mais j'attends pas non plus l'épisode suivant avec beaucoup d'impatience.
D'accord, je prends note de ce que tu dis. terminons sur Cougar Town, on en a déjà un petit peu parlé.
Oui.
C'est toujours compliqué de parler de comédie une fois qu'on a dit que c'était bien écrit, bien joué, que c'était drôle.
C'est fabuleux.
Ouais, cette saison était vraiment très bien.
Et apparemment, c'était pas...
Bill Lawrence, ça a changé de les créateurs.
Mais on s'en est pas rendu compte. Enfin, moi, je le savais, enfin, mais ça m'a pas
marqué. Moi, j'ai à aucun moment pensé que ça avait pu changer.
Ils sont un peu plus... ils ont été un peu plus dans le sentimental que les saisons précédentes, je pense. La saison d'avant.
Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé la série beaucoup plus drôle que les saisons précédentes.
Alors moi, ce qui m'agace, c'est les gens qui découvrent, comme Drum, que Courtney Cox est une bonne actrice à la saison 4 de Cougar Town. C'est ma réflexion, si Drum nous écoute, qui m'a un tout petit peu surpris après 20 ans à la voir à la télé, ben, où elle a quand même toujours su jouer... elle n'a pas toujours eu les meilleurs personnages, mais c'est une bonne actrice comique. Qui a conscience en plus de ce qu'elle sait faire, parce qu'elle fait toujours les rôles tout qu'elle sait faire. Mais...
C'est quand même pas elle.
Moi, je trouve qu'elle porte la série. Après, il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont très très réussis, mais elle, c'est le lien entre tous les personnages. Oui, elle est dans quasiment
toutes les scènes
ou une grosse partie. Et à aucun moment, c'est un personnage principal crispant qu'on n'a pas envie de voir ou qui.
Oui, c'est vrai.
Moi, il me fait rire. Hein.
Oui,
moi, pas tant que ça.
Ah. Ah.
Voilà. J'aime pas non plus son fils. Mais sinon...
J'aime bien son fils.
Moi aussi.
Alors qui tu aimes? Tu aimes sa voisine méchante et... Enfin, sa meilleure... Comment ça s'appelle? La femme de Bill Lawrence.
Mais alors, quand je prends Cougar Town de façon bien découpée, je pense que j'aime vraiment personne. Enfin, je supporterais pas une comédie basée sur un seul d'entre eux. Mais cette saison, je trouve que ça fonctionne particulièrement bien comme un tout. Enfin, l'équilibre entre tous ces personnages fonctionne vraiment bien. Je sais pas, il y a un ton que je trouve plus maîtrisé que les saisons précédentes. Cougar Town, c'est vraiment pas une série que j'ai appris à aimer les saisons précédentes. Je sais pas pourquoi j'ai continué à regarder, parce qu'il pouvait y avoir deux, trois petites choses. Mais cette saison, j'ai été vraiment surpris. Le fait que ça fonctionnait vraiment bien, qu'ils n'étaient pas toujours sur des gimmicks un peu pénibles comme Pédicane, là, ou je sais pas quoi, ou Wap Wap, il n'y a pas ça à chaque épisode, il y a une petite trouvaille à chaque épisode qui renouvelle l'intérêt. Enfin, je trouve que c'est vraiment, ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien cette saison.
Et ils ont intégré, enfin, il y a un nouveau personnage, c'est pas un nouveau personnage, mais le médecin voisin, moins là des années précédentes, enfin, qui devient presque un personnage, un des personnages principaux. Et pour le coup, là, c'est une belle trouvaille des nouveaux showrunners de lui donner un peu plus de lignes, parce qu'il est vraiment. C'est un chouette ajout à la série, je trouve. Et ça fonctionnait plutôt bien, Laurie qui. Et sa relation avec le... J'étais content qu'ils le fassent, parce qu'à un moment, il fallait soit que ça se fasse, soit qu'ils arrêtent complètement d'y faire référence. Et déjà, c'est pas si glauque que ça.
Non, c'est bon.
Ça fonctionne bien.
Oui,
c'est plutôt,
c'est bien, tous les deux.
Plutôt plaisant. Surtout qu'ils aient pas fait tout un drame autour toute la saison, mais que ce soit juste... ça se passe, comme dans Cougar Town.
Oui.
Allez, est-ce qu'il y a des séries que vous attendez pour cet été, ou est-ce qu'il est temps de... de faire une croix sur cette forme de fiction et de retourner au livre.
Mais il y a Teen Wolf qui va revenir.
Ah oui.
Ce sera je crois qu'on s'est mis un peu beaucoup de pression.
Mais peut-être que ce sera super.
Ouais, peut-être.
On espère.
Écoute, si c'est pas bien, on n'en parlera pas.
On oubliera qu'on a dit du bien. il va y avoir Louis qui va revenir. Moi j'aime bien VIP, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien cette série, mais moi j'aime bien VIP.
Moi j'ai hâte de découvrir la nouvelle saison de Strike Back quand même, été. Mais sinon, il n'y a pas grand chose.
Il y a Breaking Bad, mais moi je ne suis pas hyper impatient. Enfin, cela dit, si c'est la fin, ce sera. Enfin, c'est Breaking Bad, le problème, ce n'est pas la série elle-même, c'est le. L'écart énorme entre la qualité des épisodes et l'accueil qui leur est réservé à chaque fois. Mais je pense que Breaking Bad, si tu regardes dans une bulle sans savoir ce que les gens en pensent, je pense que la dernière saison sera... En plus, c'est la dernière, donc ça devrait être assez, assez fort.
Faut voir, je pense qu'ils peuvent quand même bien se planter.
Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça va être... Parce que pour moi, les précédentes qui m'ont un peu gonflé, c'est aussi parce qu'ils étaient un peu obligés de délayer, de repousser l'inévitable pour pas casser complètement leur série. Et du coup, de faire un peu traîner des choses en longueur. J'attends de voir.
Parce que la première saison, elle commence par une scène avec Walt qui fête ses 51 ans tout seul, c'est ça ? Ou ses 52 ans tout seul, il sous des bougies dans un bar, un truc comme ça.
J'ai rien compris à cette scène. Mais apparemment, c'était dans le futur et ça y est, ça c'est fini et tout. Mais là, surtout, la saison se finit avec...
avec l'autre qui découvre.
Découvre dans une scène un peu absurde...
Écoute, ça m'a pas choqué qu'il découvre que Walt était... qu'il découvre ça de façon absurde dans les toilettes en tombant sur un bouquin. Ça fait 5 saisons qu'il voit rien du tout. Ouais.
Oui, non mais...
Qu'il découvre pas ça... moi, je trouvais ça plutôt bien trouvé, qu'il trouve ça assis sur les toilettes. Alors effectivement,
moi, pour le personnage, c'est pas très sympa. Moi, j'ai pas compris, en fait, comment... il a fallu qu'on m'explique, parce que ça faisait 2 saisons que ce bouquin avait plus été évoqué, il me semble. Enfin, j'ai mis un tout petit peu de temps à comprendre qu'il avait compris, en fait. C'est plus ça qui m'a gêné en termes d'impact que la découverte elle-même. Mm-hmm. Mais,
j'ai hâte de voir The Newsroom, c'est affreux. Oh. Parce que je me dis que ça ne va pas être aussi mauvais que dans mon souvenir. Je ne sais pas possible que ce soit aussi affreux. Moi, j'ai une image de ce truc sexiste, atroce, avec un connard qui nous fait des leçons de morale un an après sur la façon dont il aurait fallu traiter les choses.
Pardon, moi c'est pareil. Les deux, c'est des donneurs de leçons. Les deux sont des donneurs de leçons.
Dans Monday Morning, c'est pas aussi sexiste que Monday Morning, c'est pas aussi sexiste que The Newsroom. Par contre, le côté on refait le match un an après avec toutes les infos et on vous explique comment est-ce que les choses auraient dû se passer. Il y a un côté relativement vain et condescendant. Enfin, c'est l'intérêt est relativement étrange. Mais je me demande si Sorkin va faire 2-3 légères modifications, c'est-à-dire donner un peu plus de place aux femmes et le faire de façon encore plus tragique pour les personnages féminins. Je ne sais pas ce que ça peut... Voilà.
Après, je ne sais pas ce qu'il y a comme nouveauté, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des trucs à suivre?
Il me semblait qu'il y avait des séries de zombies qui devaient arriver sur les networks pour concurrencer The Walking Dead. Ce qui serait bien, parce que du coup, The Walking Dead pourrait enfin être jugé de manière neutre, objective par les fans de zombies.
Mais non, tu comprends pas, parce que si c'est une chaîne nationale, et bien ce sera forcément nul, parce que c'est pas le câble, et quand le câble, tu peux faire ce que tu veux, machin. Pardon.
Voilà, et ben on peut vous dire, profitez du soleil.
Ouais.
Puis dans 6 mois. À dans 6 mois.
À dans 6 mois.
Quelque chose comme ça, ouais.